Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui se remémore la belle époque du cinéma autour du feu. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui dans l'émission, Once Upon a Time in Hollywood,
le gangster, le flic et l'assassin, l'intouchable Harvey Weinstein.
Perdri.
Dora l'exploratrice.
Une semaine bien chargée.
Ouais, une semaine qui donne bien envie aussi.
Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un peu à la fois très attendu, parce qu'on a un film très attendu, et puis exceptionnel aussi, parce qu'on a un invité. Un invité qui n'a peur d'aucune épreuve. À ma droite, j'ai Octave, de l'équipe des Rouges. Salut Octave. Et à ma gauche, j'ai l'équipe jaune autour du feu avec Damien. Salut Damien.
Salut.
Autour du feu, oui, un podcast spécialisé sur Koh-Lanta, les épreuves et tout autre. Et donc tu viens affronter le conseil de claque ce soir. Tu rejoins le conseil de claque ce soir. Très exactement.
Ouais, bah avec plaisir. Moi, j'écoute votre podcast là depuis que je vous croise aux soirées podcastéo. Hein, on attrape les mouches avec du miel, c'est podcastéo quoi. Et du coup, ouais, je suis vachement content d'être là parce que, et surtout pour voir le dernier Tarantino.
Waouh, ça y est, allez, on est passé de l'autre côté de la scène. Pour moi, c'est l'aventure un peu. Le prix des cafés a doublé. Il passe pas Fast and Furious sur les affiches au Cinoche, je comprends pas ce qui se passe. On est au cinéma L'Arlequin et on a, waouh, l'équipe au grand complet. Hera, salut Hera.
Salut Thomas.
Salut Yassa.
Salut Thomas.
Salut Karl.
Salut Thomas.
Et salut Julien.
Salut.
Once Upon a Time in Hollywood, film présenté à Cannes cette année en 2019, qui a été remonté entre temps parce que visiblement le montage n'était pas top top. Et un film avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, entre autres, et qui nous narre la belle époque du cinéma, fin des années 60. Qu'attendez-vous de ce film ?
J'imagine qu'il y aura peut-être quelques exceptions ici, mais je pense que tout le monde est d'accord, qu'on aime ou pas, pour dire que c'est un grand cinéaste. Un grand cinéaste qui connaît très bien son sujet. Tarantino, c'est quelqu'un qui adore mettre en abîme tout ce qu'il aime dans le cinéma, puisque là même d'ailleurs pour celui-ci, il avait envoyé une liste la semaine dernière des 10 films à voir avant de voir son film, qui était tout ce qu'il avait inspiré. Il s'inspire énormément, il copie énormément aussi, mais sans plagier. C'est quelqu'un qui arrive à retirer l'essence, enfin en tout cas je trouve, qui arrive à retirer l'essence de ce qu'il aime, pour le montrer, pour le détourner, pour faire un hommage tout en créant une œuvre unique. Ce que j'attends de lui, c'est du dialogue. C'est un dialoguiste de malade. Tout est écrit, tout est très précis.
Tarantino, on sait que l'un des intérêts principaux de sa filmo, c'est de suivre sa cinéphagie à lui, ses films à lui. Et c'est la première fois, alors il y avait un tout petit peu dans Boulevard de la Mort avec le personnage de Kurt Russell qui était un cascadeur, mais c'est la première fois qu'il va faire un film sur le cinéma qui se passe dans l'industrie. Et donc là, tiré par une mise en abîme, va falloir atteindre un troisième, quatrième niveau de mise en abîme pour arriver à vendre ça pendant 2h30, c'est ça qui dure le film ?
Ouais, facile, hein. Peu plus.
Moi j'aimerais parler de la bande-annonce parce que c'est vraiment un synopsis de 4-5 lignes et à part vraiment la trame principale, je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir dedans et du coup je suis assez excitée d'aller le voir.
Je vais rejoindre Karl sur ce coup-là. Ce que j'attends d'habitude d'un Tarantino, c'est des dialogues extrêmement bien écrits, comme disait Thierry. Un scénario et une narration, on va pas dire exceptionnelle, mais propre à son cinéma, qui est assez inimitable. Mais le film s'appelle Once Upon a Time in Hollywood. C'est pas pour rien. J'en attends limite un résumé de tout son cinéma, en fait. C'est un film testament que j'attends.
Rien que ça. Rien que ça. Hera.
J'attends une très bonne distraction. Un très bon divertissement. Parce que c'est ce que Tarantino sait faire, de distraire, d'exécuter ses personnages, d'avoir un scénario ultra bien mesuré, des dialogues exceptionnels comme disait Thierry. Je suis celle peut-être du groupe qui est la moins fan et qui apprécie le moins le travail de Tarantino. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, mais je m'attends quand même à passer un bon moment parce que c'est jamais désagréable, mais j'en ressors jamais avec un sentiment d'avoir vu un film exceptionnel. J'ai pas du tout la sensation que celui-là va être différent ou va être meilleur que d'autres. Mais j'espère passer un bon moment, c'est tout.
Tarantino, attendu, 9e film, on commence à connaître sa cinéphilie, vous l'avez dit. Je trouve que c'est un film qui est très attendu et peut-être trop attendu. Là, c'est vraiment le film piège. C'est un film qui est très cinéphile, qui va parler du cinéma même. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Soit il en fait des caisses et ça va être la surcouche. J'espère que ça ne va pas être le film de trop. C'est ce qu'il craint et c'est ce qu'on craint tous. Mais je pense pas qu'on puisse faire un film de trop quand on s'appelle Tarantino, je crois pas. Bonne séance les amis.
Bonne séance, à tout à l'heure.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
No, I'm a stuntman.
Look at me!
So you still with Rick, huh?
Still here.
You could do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
2h30 de film, 2h30 de Tarantino. Pur jus. Là, on peut pas dire que c'est pas un film de Tarantino. Je crois qu'on coche à peu près toutes les cases, les références, la musique, les pieds sur la plage avant en premier plan, la violence, mais quelle violence les enfants.
Alors, j'ai entendu parler pour la première fois de ce projet il y a 1 an et demi, 2 ans, et à l'époque, il était question d'un film sur l'assassinat de Sharon Tate par la Manson Family. Alors, c'est à la fin des années 60, la Manson Family, c'est une bande de hippies complètement défoncés, Charles Manson, c'est leur gourou.
C'est en fond, c'est pas l'intrigue principale.
Je m'attendais pas du tout, enfin... Oui, il y a ça en fond, mais je m'attendais pas du tout à un film gaulé comme ça pour raconter cette histoire. En même temps, c'est Tarantino, faut s'y attendre. Hein.
C'est ça, c'est quand même ces 2 heures de mise en plan, hein, de disposition pour arriver à ce fameux soir.
Je trouve même. Enfin, pour moi, en fait, c'est là, c'était juste heure de conclure qu'il est arrivé là, mais le film n'amène même pas à ça, en fait. Le film, enfin, tu dis que c'est pas l'intrigue principale. Pour moi, le film n'a pas du tout d'intrigue. C'est une tranche de vie qui te montre le système hollywoodien, le star system, la façon dont les stars évoluent. Alors, tu disais que ça était le plus Tarantino parce que tu trouves que ça coche toutes les cases. Alors moi, je trouve que pour le coup, ce film-là, et je vais nuancer, c'est le moins Tarantino. Parce que, en fait, je trouve que ça essaie de cocher toutes les cases, mais que ça le fait pas très très bien. La maîtrise, la musique, elle est certes là, de temps en temps il met des musiques, c'est pas toujours très bien.
J'ai dit qu'il y avait beaucoup de musique, des références, mais là, sur ce film-là, c'est pas un bon point, j'explique.
Voilà, c'est ça. Parce que ce que Quentin Tarantino fait d'habitude avec cette espèce de musique qui te pop à la gueule et qui dénote généralement de l'action qui se passe. Ouais, il le met sans le mettre. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gros souci.
Et même sur la musique, on va finir là-dessus. Je trouve que moi, c'est un amas de références. Et il y en a énormément, énormément, énormément. Alors, ça illustre aussi Brad Pitt qui passe sa vie dans sa bagnole, qui traverse les et que ça met 3 plombes. Du coup, ben, en fait, il va passer 3 morceaux d'affilée pour montrer le temps qui passe. Mais après, c'est vrai que la BO, là, elle va faire 3 à 5 disques.
Et c'est surtout beaucoup moins marquant étant donné que c'est replacé dans le contexte de l'époque et que donc les musiques dénotent beaucoup moins comme elles ont pu le faire dans d'autres films de Tarantino.
Il met 3 tonnes de référence, ça, une fois de plus, en effet, c'est du Tarantino pur jus, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que là, il y a un problème de rythme, un gros problème de rythme. Moi, au final, le côté surfait de Tarantino, le côté il t'en fout 3 tonnes dans la gueule constamment, même quand il est dans des passages de mise en place où c'est plutôt lent mais où ça balance dans tous les sens, ça me convient parfaitement. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'ennuis. Beaucoup de passages où je me disais, ça met 30 ans à démarrer. Et le film est vraiment basé là-dessus. Alors à la fin, bah, justement, il te fait une grosse explosion et du coup, tout le monde est content. Mais étant donné que le film n'amène pas à ça, cette conclusion, elle sort un petit peu de nulle part. C'est sympa de la mettre. Moi, j'ai passé un bon moment à ce moment-là. Mais du coup, j'ai trouvé que voilà, c'est le moins Tarantino parce que je trouve que c'est le moins maîtrisé. Et à la fois, c'est le plus Tarantino dans le sens où son côté « je suis le plus grand cinéphile de la Terre », on le voit. Sauf que généralement, Tarantino, c'est quelqu'un qui il te dégueule ses références à la tronche, tout le temps. Sauf que généralement, c'est du miel pour les cinéphiles. C'est toi, t'es cinéphile, tu vois un film de Tarantino, si t'adores ça, tu vas repérer plein de trucs dans le champ. Ah, ça fait référence à ça, à ça. Mais t'as une intrigue. Ça te propose quelque chose. Et là, j'ai trouvé qu'en gros, c'était Tarantino qui te montrait à quel point est-ce qu'il connaissait bien le cinéma, à te faire 30 000 références, à refaire des scènes de films avec tel acteur à la place. C'est fun.
Et même à incruster les acteurs du film dans les scènes originales.
C'est très bien fait. Il y a un talent d'acteur qui est monstrueux. DiCaprio et Brad Pitt, puisque c'est clairement eux le duo de tête, sont fantastiques. Mais du coup, moi là, j'avais l'impression que Tarantino ne me proposait pas une intrigue, qui me disait juste « Regarde, je t'écris une encyclopédie du cinéma et je te montre à quel point je le connais mieux que toi. » Et même si je sais que il a aussi cette petite arrogance, il a toujours eu dans ses films. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il me pointait du doigt en mode « Eh, t'as vu ? Ça, je sais, ça. »
Je me tourne vers notre invité.
Oui.
Comment ressors-tu de Once Upon a Time, de cette histoire, de ce conte de fées à Hollywood?
Bah, j'aurais pas un avis aussi pointu que les autres, ça c'est sûr, parce que je connais beaucoup moins le cinéma qu'eux, mais j'ai apprécié, honnêtement. J'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Et surtout, c'est ce que, comme disait Thierry, c'est le côté tranche de vie. Surtout, c'est pas une histoire qui t'emmène d'un point A à un point B, c'est une histoire qui cherche à te montrer un âge d'or. Et j'avais vu un petit peu avant de venir qu'apparemment Tarantino, c'est quand il a grandi, c'est ce dans quoi il a vécu. Et je l'ai trouvé très nostalgique, en fait. C'était vraiment la... Et je pense qu'il voulait vraiment rendre l'atmosphère du Los Angeles qu'il a connu. Et c'est, pour moi, ce film, en gros, c'était plus, comme je disais, pas forcément une intrigue, mais montrer vraiment ce qu'il voulait, comme dit Thierry aussi, bah, les références à fond. Bon, bah, moi, j'en ai même pas capté la moitié, ça, c'est évident. Mais c'est, on sent son boulot, on sent le fan, on sent le passionné. Et après, c'est vrai, à la fin, j'ai trouvé aussi que ça faisait un petit peu prétexte. C'était prétexte, voilà, c'est sa petite signature, bon, voilà. Mais c'était pas ultra dérangeant. Et voilà, j'aime bien ça, en fait. Moi, j'aime bien le côté tranchant. On va te montrer un peu, on va utiliser un mot un petit peu pro, je disais, le succès d'année d'une époque.
Alors, j'ai moins vu une encyclopédie de références ciné que... En fait, moi, je me suis pris un petit kiff à comment il va montrer, comment il filmait. Parce que c'est ce que je disais avant d'entrer, c'est cette différence d'image. Et en fait, très souvent, il y a genre 3 ou 4 plans qui vraiment auraient pu être faits dans les années 60, mais la plupart des plans qui sont censés tourner dans les années 50-60 ont très clairement été tournés aujourd'hui. Et en fait, c'est juste pour donner une idée. En fait, ça a toujours été le travail de Tarantino, récupérer les petites pépites, les trucs qu'on voit pas dans le cinéma, et le refaire à sa sauce, en l'actualisant, en le renouvelant. Et bah, c'est ce qu'il fait en prenant ces grains des années 60, en prenant ce type d'histoire. Mais en même temps, par exemple, on voit une fausse scène, enfin, dans le film, on voit une scène de course-poursuite qui est censée tourner dans les années 60, donc, mais on voit la caméra qui est placée en dessous du levier de vitesse. Une caméra des années 60 ne passe pas sous un levier de vitesse. C'est impossible.
Justement, rapport comment dire, à la place que prenait une caméra à l'époque et à la façon dont on filmait à l'époque, poser la question de l'intérêt réel de filmer en pellicule ce film, à part pour des raisons fétichistes.
J'ai bien aimé, mais j'ai pas ressenti le frisson que j'ai d'habitude en regardant un Tarantino, quoi. C'était assez décousu, mais en même temps, il y a le jeu d'acteur qui aide. De toute façon, voilà, les acteurs sont bien dirigés, tout ça. Mais j'avais quand même, il y avait des moments où c'était assez long et je me disais, attends, c'est du Tarantino, donc il va peut-être se passer quelque chose. Sois patiente, tu vois. Je me faisais patienter. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois durant le film, tu vois. Et je me faisais patienter, repatienter toutes les demi-heures environ. Il y avait pas mal de scènes comme ça. Après, j'ai bien aimé la touche d'ironie un petit peu qu'il y a d'habitude chez Tarantino. Elle était toujours là. Il y a une scène que je garderai, je pense, de ce film. C'est au moment où le personnage de Brad Pitt rencontre la jeune hippie, là. Et t'as Mrs. Robinson qui joue. Et en fait, c'est lui le vieux et c'est elle la jeune. Et j'ai rigolé, mais pour moi-même, j'étais là. Ok, j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Et je pense que ça, c'est ce que je vais retenir. Après...
Ouais, c'est une des multiples références qu'on a dans ce film. Hein. C'est parsemé comme ça tout au long du film.
Mais c'est celle que j'aimais le plus.
Alors, on dit qu'il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de tranches de vie, et tu attendais qu'il se passe quelque chose. Moi aussi, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et c'est pour ça que la dernière demi-heure, j'étais content, parce que je me dis, ah, ça y est, il va se passer un truc, ça y est. Du coup, quand il se passe un truc, c'est jouissif, parce que bah, c'est très violent, c'est ultra violent, on va pas vous cacher que la fin est ultra violente, hein. Voilà. Même il y a des passages de violence un peu, ça y est, il s'est filmé, il n'y a pas de souci. Il a vu assez de films de série B pour savoir filmer la violence.
Il a tourné assez de films violents
aussi. Plein instantané de l'époque, hein. Effectivement, il y a l'actrice qui va se voir au cinéma, qui va voir ses scènes, il y a plein de... La gamine qui te sort l'acteur studio, non mais moi, sur le plateau, je suis mon personnage, je vis le perso, je suis à fond et tout, je me donne à fond, car moi je me donne à fond. Au bout d'une heure, je me dis, bon quand même, cette première heure, elle est un peu longuette de préparation, je regarde ma montre, il s'était passé une heure et demie quand même. Donc, même si c'est de la tranche de vie, même si c'est de l'exposition, on a quand même quelqu'un qui sait... utiliser une caméra, qui sait utiliser le montage, qui sait faire un film. Et même si c'est de la présentation, même s'il n'y a pas réellement d'intrigue pendant 2 heures, eh ben, on passe un excellent moment.
C'est pas une histoire d'intrigue, c'est une histoire de peindre une fresque de certains personnages, d'une certaine industrie, d'un certain milieu, et à un certain moment. En soi, c'est pas si différent de ce qu'il a pu faire. Pulp Fiction n'a pas tant d'histoire que ça, c'est 2 semaines dans la vie de ces gars-là. Bon, Reservoir Dogs, c'est...
Seulement, il se passe des trucs tout le temps, quoi.
Mais là, il se passe des trucs tout le temps. C'est juste qu'ils se tirent pas dessus, ils sont engagés sur des films. Quand même, t'as Al Pacino qui te propose d'aller faire des western spaghetti, il se passe un truc.
Puis il y a des plans séquences longs, avec DiCaprio sur un tournage, qui sont assez impressionnants, mine de rien. Je me tourne vers celle qui garde le silence, parce que dans tous les films, il faut un antagoniste. Hera, c'est à toi.
Tarantino a la chance, on va dire, d'être un petit prodige du cinéma, qui sait parfaitement faire un film extrêmement millimétré, qui fait tout nickel, qui te blinde de références partout, tout le temps. De musique, parce qu'il est aussi bon en musique, il aime la musique, et il veut te prouver qu'il aime ça. Donc il a ce talent de savoir exécuter parfaitement un film. Sauf que dans tous les processus créatifs de Tarantino, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme histoire pour qu'il y ait un bain de sang dedans, pour qu'il y ait des gens qui prennent de la drogue, pour qu'il y ait un peu de violence et en même temps un peu de calme, et puis je vais rajouter un peu de musique dedans et des références un peu partout. Qu'est-ce que je vais prendre comme toile de fond, comme histoire, pour atteindre cet objectif ? C'est ce qui répond au pourquoi est-ce que, quand on a enregistré l'intro, pour vous, vous disiez « S'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Tarantino, c'est de jamais faire le même genre de film. » Et ben voilà, on a encore une fois la preuve que Tarantino fait toujours le même film. C'est « Je te balade pendant une heure » à travers tout et n'importe quoi de mes références et de « Oh, regarde comme c'est beau le cinéma, comme je le maîtrise et comme je sais faire. » Branlette. Grosse branlette. Pour terminer en « Ah, oh, ça explose dans tous les sens, comme ça les gens sont contents. » Comme je disais juste avant, je discutais avec Damien à la sortie du film, ce dont tu te rappelles majoritairement dans les films, c'est les montées très fortes de violence et les premières minutes et surtout les dernières minutes du film. Donc tu sors de ce film en te disant « Waouh, la dernière séquence était absolument incroyable et c'était fantastique. » Sauf que tu oublies qu'il t'a trimballé pendant des heures pour rien, sans jamais définir ses personnages parce que on s'en bat les couilles de comment ils sont, de comment ils fonctionnent, de pourquoi est-ce qu'ils font ça comme ça. On s'en bat les couilles de où est-ce qu'on est, de l'époque dans laquelle on joue, puisque c'est juste une putain de toile de fond pour qu'il puisse faire son bain de sang. Donc Quentin, soit t'arrêtes d'avoir du budget et tu nous resserres un Reservoir Dogs, et là on s'éclate. Soit tu te mets à faire un film d'ultra-violence comme tu veux le faire et t'arrêtes de nous faire chier à nous embarquer pour rien comme si t'étais Christopher Nolan. Merci.
Alors, sur ce film-là, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'Hera vient de dire, hein, cela dit, même si j'ai quand même passé un meilleur moment.
Alors, pour le coup, moi aussi, je vais rejoindre Hera à ce niveau-là, c'est-à-dire à soulever le fait que Tarantino faisait toujours le même film. On a eu le débat juste avant la séance d'ailleurs, on va revenir là-dessus, sur le fait qu'il fait... pas le même film dans la forme, mais les thèmes sont toujours... Comment ? Le processus est toujours le même dans le fond. Contrairement à Hera, je vois pas ça d'un point de vue négatif. Je regarde un Tarantino comme je regarde un film de genre. Je décrypte les codes, je décrypte à quel moment la tension va monter, à quel moment les personnages vont s'envoyer des pics, et à quel moment tout va péter. C'est le processus classique sur un film de Tarantino. Et là, j'ai eu un vrai problème. C'est que, comment dire, les références, les longueurs, moments référencés, que ce soit musicaux, que ce soit contextuel, bref. Aucun de ces moments ne t'amène à ce qui va se passer. Aucun de ces moments ne fait monter cette tension, excepté celle où Brad Pitt se retrouve dans...
Spoil'em.
Et donc là, l'explosion de violence ne vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il a réussi à respecter tous ses codes, sans pour autant récompenser le spectateur de son assiduité.
Bah là, voilà. du coup, tu spoil un peu la scène, mais oui. Oui, on est obligé pour expliquer.
Oui, pardon.
Je replacerai ça, je me démerderai. Cette scène-là, tu l'as aimée ou pas, toi ? La scène du spoil.
La scène du spoil. Oui, le final, non. Le fait que ce soit une partie, on va dire, anecdotique de l'intrigue, qui arrive soudainement sans que... Oui, qu'il soit amené soudainement, hein, typiquement, va à l'encontre des codes de Tarantino. Et, alors, même si chez d'autres cinéastes, j'apprécie d'être surpris, chez Tarantino, c'est plus compliqué. On peut regarder ça comme un film de genre, en décryptant des codes et en essayant d'anticiper ce qui va se passer. Et à partir du moment où tu n'y arrives plus, on entre dans un tout autre genre de film, on ne s'attend pas à ça de la part de ce gars-là.
Je suis assez d'accord pour dire que c'est tout le temps le même schéma, même si moi j'ai eu l'impression de voir des genres différents régulièrement, mais en effet c'est le même schéma narratif. Et c'est vrai que ce dernier acte-là ne fonctionne pas parce que oui, en effet, il est mal amené. Après, moi, sur le moment, quand il a démarré, que j'ai compris que finalement il y allait avoir cet acte-là, j'y croyais même plus en fait. C'est vrai que je ne savais même pas qu'il allait y avoir cette partie-là. Quand elle a démarré, j'ai fait « Ah ok, il fait comme d'habitude. ah bah cool. Et j'ai savouré le moment. Et c'est vrai qu'après, bah, on sort de la scène, on fait ok, d'accord, mais cette scène, dans ce contexte-là, elle arrive de nulle part, elle ne marche pas. Même si, si on connaît un minimum l'histoire d'Hollywood à cette époque-là, on sait qu'il va y avoir un truc de ce genre-là. Cette fois-là, il n'y a pas de tension, il n'y a pas des montées, il n'y a pas... C'est un achevêtrement de plein de choses très intéressantes prises séparément, mais qui, dans le tout, en tout cas sur moi personnellement, ça n'a pas fonctionné. Mais je maintiens que c'est un film que je vais revoir, puisque je pense que peut-être une seconde vision, en sachant justement comment il est narré et comment il est monté, me le rendra peut-être plus intéressant. À voir.
Ouais, je pense qu'il faut le regarder plus sur le côté amour du cinéma, hommage au cinéma, et peut-être garder les deux premières heures. Parce que après, moi le Benson, je me suis régalé, hein. Je crois qu'on a assez parlé là-dessus, à moins que vous ayez un dernier truc à rajouter.
Ne me lance pas, j'ai dit Thomas.
Il te lance. Est-ce que Tarantino est exclu de l'île ou est-ce qu'il continue l'aventure ?
Pour moi, il la continue, mais il faut qu'il fasse gaffe. Parce que je pense que ses alliés pourraient se retourner contre lui. Voilà.
Ouais, je vois qu'il y a une tension avec Hera dans le camp. Et elle pourrait voter contre lui au prochain conseil. Tarantino conserve le totem d'immunité. Le conseil a parlé et sa sentence est irrévocable. L'aventure ne se continue pas pour tout le monde. Au revoir Julien.
Au revoir Thomas.
Quant à nous Damien, on se retrouve un peu plus tard dans l'émission.
Oui, c'est
ça. Pour un doc. Un documentaire sur un homme qui s'est mis son équipe à dos.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ce mec qui nous, ou alors part en premier parce qu'il insupporte tout le monde, ou alors ce qu'on appelle dans le jargon du jeu une goat, c'est-à-dire quelqu'un qu'on amène avec soi en finale parce qu'il est tellement détesté qu'on est sûr de gagner contre lui.
De qui parle-t-on ? Réponse un peu plus tard dans l'émission. Le gangster, le flic et l'assassin, il semblerait que ce soit un remake qui lui-même soit inspiré d'une histoire vraie. Film de Lee Wong-tai, un de ses premiers films, je crois qu'il a fait un film avant mais il n'est pas arrivé chez nous. Lee Jong-tai qui a écrit également le scénario avec une belle équipe d'acteurs hein, dont Ma Dong-seung qu'on connaît si on a vu Le Dernier Train pour Busan par exemple ou Le Bon, la Brute et le Cinglé.
Celui qu'on appelle plus communément le bœuf dans le cinéma coréen.
C'est ça, et qui devrait être dans The Eternals de Marvel. Un pitch très simple, un tueur en série sévit en Corée. On ne sait plus dans quelle ville, mais on s'en fout en plus à la limite. Il tape un peu au hasard et ben, un jour, il s'en prend un chef de gang. Pour garder la face, le chef de gang va rechercher l'assassin. Et la magie du scénario va faire que le flic et le gangster vont collaborer pour courir après l'assassin. Le gangster veut le tuer, le flic veut le mettre en taule. Qui mettra la main dessus le premier ? Mystère. On va faire un peu vite sur ce film, parce que moi j'aimerais aller voir le prochain assez tôt, et puis c'était pas très bon.
Quand on parle d'un polar ou d'un film, c'est clairement du film de genre, c'est un polar sombre, quand tu regardes un scénario comme ça, on sait que le cinéma coréen a tendance à être dans l'exagération, il aime beaucoup le côté sanguinolent, le côté la violence est très exacerbée, on aime bien les cuts très rapides, on t'en fout plein la vue, quand ça y va, la violence c'est sale. Et il y a un regard aussi sur la société qui est très violente en général, surtout dans un pays qui accorde encore la peine de mort. Que le réalisateur ait décidé de ne pas faire ça, pourquoi pas, si tu proposes quelque chose. Mais en fait, là, le film est tellement lissé de tout son potentiel violent et de tout ce qu'il est censé te montrer aussi, pour te montrer qu'il y a quand même des moments pas chouettes dans la vie, qu'on se demande s'il a compris ce qu'il devait filmer en fait. Là, on est face à un film qui est vide d'absolument toute essence violence. Comme dit, c'est ce que Karl a dit au début, je te pique ta phrase du coup. Quand on est sorti de là, il m'a dit c'est un hard-boiled soft. Et c'est dommage parce que t'as des moments où chaque fois qu'il te présente un personnage, il essaie de te le montrer avec charisme, avec de la grosse musique. Tu sais que ça peut péter, mais ça ne pète pas. Alors, propose-nous autre chose à ce moment-là.
C'est que de la gueule, hein.
Voilà, c'est propose-nous autre chose à ce moment-là, mais on ne nous propose absolument rien. C'est dommage parce que t'as des acteurs, le mec qui joue dans. Que tu as dit son nom dans. Dont tu as dit le nom dans Dernier Train pour Busan. Déborde de charisme à un rôle qui est taillé pour lui, hein, clairement le gros gangster qui peut être ultra violent en compagnie, et à chaque fois, putain, mais la violence, c'est deux cuts et c'est fini, le mec sont par terre. Et c'est vrai que il manque un truc, il manque un côté viscéral qu'on aurait apprécié, peut-être pas forcément trop comme on peut le voir dans d'autres.
Ça c'est pour l'aspect violence, en fait le film, il y a un peu de sang mais en soi c'est mignon, enfin il y a même un gangster qui se fait arracher la dent, c'est que t'es à mort, enfin tu... On voit rien quasiment, enfin le plaisir de ces films là c'est aussi, tu chopes un mec, tu le mets par terre, c'est pour lui le voir se faire péter la gueule, vraiment. Là, t'as jamais ça. Et même sur le côté critique de la société, il y a trois fois dans le film où les gens vont faire « Ah, quelle société pourrie, ils vont même pas nous laisser arrêter des meurtriers dans les bouchons. Ah, ils nous laissent pas passer. » Oui, ben, d'un autre côté, c'est bouché, connard. Et il y a juste ça, trois fois, et on s'en fout. Enfin, ça... la société, c'est pas bien, mais le gentil va rester gentil, le méchant va rester méchant, celui qui veut buter des gens va toujours vouloir buter des gens. Enfin, la société, c'est pourri, mais de ce coup, on fait avec.
Oui, et la leçon de l'assassin, la morale, oui, non, mais si vous voulez m'assassiner, si vous voulez me condamner à mort, vous êtes des assassins aussi, un truc du style, hein, sachant qu'on ne sait même pas s'il est condamné à mort au final, puisqu'il se retrouve en tôle.
Le juge dit, vous êtes condamné à mort, en général, c'est un bon signe.
Je sais pas, j'étais à moitié endormi, je suivais à moitié, quoi. Je vais te dire, le film était tellement chiant que je n'arrivais plus à suivre, quoi.
J'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que j'ai l'impression de l'avoir vu 500 fois, tout simplement. Des histoires de gangsters et de flics qui se s'allient pour aller pour une raison commune, que ce soit, je sais pas, la meuf du gangster qui s'est fait enlever ou un truc qui arrive à sa mère ou peu importe la raison. Là, ils ont trouvé une excuse pour le faire. C'est un scénario qui est plutôt bien écrit. En termes d'écriture, c'est correct, ça remplit bien les cases. Ça a du sens, ça a un début, une fin, ça emmène quelque part, il y a une évolution. Après, il y a rien de spécial. Donc quand il n'y a rien de spécial et qu'il n'y a rien qui change, que ce soit dans la mise en scène, que ça offre rien en jeu, en mise en scène, en narration, bah voilà, je vous rejoins sur le fait que c'est très chiant et que ça apporte rien de spécial. On passe pas spécialement un mauvais moment, mais c'est pas non plus la grande éclate, quoi. Et on attend la fin, quand même, beaucoup.
Moi j'ai aimé. J'ai aimé, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un thriller coréen classique, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec le serial killer qui a les cheveux longs, la casquette noire, enfin c'est un code qu'on retrouve dans la majorité des films ou des séries coréennes qui traitent de ça. Après, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est le kitsch du film. C'est-à-dire qu'il y a des traits qui sont grossis, ne serait-ce que dans la police et même les gangs. Les deux côtés sont montrés. Et en fait, c'est vraiment les codes, mais poussés à l'extrême, je trouve. C'est-à-dire que voilà, on va voir les soupirs un petit peu vraiment se pencher devant leur boss qui arrive ou les flics qui n'en ont rien à faire et tout ça. C'est des codes qu'on retrouve souvent dans les films ou les séries, etc. Mais ici, j'ai trouvé vraiment que c'était étiré, que c'était vraiment... Et je ne sais pas pourquoi, franchement. En général, ça ne m'aurait pas plu, vraiment. J'aurais vu ça dans un autre film, dans d'autres circonstances, j'aurais pas accroché. Mais là, franchement, j'ai accroché. Puis l'histoire aussi, j'ai bien aimé. Enfin, il y avait quelques moments un peu flous. Même à la fin, par exemple, à la fin, une fois qu'il se fait condamner, pour moi, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Parce qu'après, on a un flashback, en fait, entre le flic et le gangster, qui explique un petit peu les circonstances des retrouvailles de l'assassin et du gangster en prison. Mais j'aurais pensé,
ça fait partie des 3 milliards de trucs surexpliqués, quoi.
Oui.
C'est par exemple, tu es un gangster, je suis un flic, on va collaborer. C'est quand même extraordinaire qu'un flic et un gangster collaborent. Mais tu trouves pas que c'est incroyable qu'un flic et un gangster collaborent pour arrêter un assassin? Sans blague, c'est ce qui a marqué.
C'est l'intérêt.
C'est l'intérêt du film, on y va pour ça, c'est pas la peine de le dire, on l'a vu.
Non mais c'est totalement gros, il y a des choses expliquées, c'est totalement... c'est surexpliqué, surjoué, pas dans le jeu d'acteur, mais dans le contexte. Voilà,
la mise en scène est surjouée, on te souligne les trucs, c'est pour ça. Il y a un moment, je me suis tournée vers... Elle est moche, effectivement. Je me suis tournée vers Yassa à un moment en disant, mais putain, c'est pas un clip de Snoop Dogg, tu vois, ils sont tous en train d'avancer, il manque la piscine et les piches, quoi. C'est bon, quoi. Calme-toi avec ta caméra, tes ralentis qui servent à rien, à souligner des personnages qu'on a déjà vus 40 fois sous toutes leurs coutures. On a compris qu'ils étaient puissants, on a compris qu'ils aimaient s'arracher la gueule. C'est bon, quoi. N'en fais pas trop. Et le mec, il va à fond, quoi.
Non, mais c'est fun à voir. Franchement, j'ai adoré.
C'est drôle,
j'ai kiffé.
C'est risible, en fait.
Oui.
Sur le côté, les codes poussés à bout, moi, j'ai trouvé absolument pas. Enfin, comme le reste, lycée à mort. Des flics poussés, c'est Memories of Murder. un gangster exagéré, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. Un tueur en série.
Ce qui est poussé, ce sont les entrées. C'est pas tant les personnages, ce sont leur entrées.
Non, c'est, en fait, ils seraient des super persos de Street Fighter. Chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, c'est super épique. Et après, bah, t'as juste ton petit frère de 6 ans qui essaye maladroitement de faire 3 trucs avec sa manette. Et à la fin, t'as gagné.
Je conclurai en disant juste un truc. On est allé le voir avec un copain qui, justement, qu'on appelle le cinéma coréen, et qui m'a juste dit ça, une phrase en sortant. Il a fait: j'ai l'impression de voir un film coréen, mais fait pour le public européen. Le film coréen pour les nuls. Si jamais vous avez accroché ça, regardez des films coréens en fait derrière, et vous allez voir, c'était assez mineur en fait.
On retiendra quand même une réplique.
Ah. Chacun une bite, mais un cœur uni ou un truc comme ça.
Bite différent. Attends, non, parce que ça rimait. Attends. Bite identique, cœur unique.
Non, bah non, justement,
ils ont, non, attends, ils ont chacun sa bite, c'est 1000 bits mais un seul cœur.
On peut avoir 1000 bits mais un seul cœur.
Voilà, voilà, donc je dis un seul truc mémorable, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous avez compris l'idée, mais. Voilà.
De toute façon, vous avez eu l'idée générale, ça vaut pas le coup de se mettre d'accord.
Voilà.
Allez, en parlant de bits, c'est quoi le prochain film?
Quelle transition.
More women are now accusing Harvey Weinstein,
including some very high-profile actresses. Nearly 80 have accused Weinstein of misconduct.
I went on a hope and a dream. I thought maybe this is my in.
Here was I meeting one of the most powerful men in Hollywood.
I was going to have dinner with him at the Beverly Hills Hotel.
He said, "Can we have a drink upstairs at yours?"
So obviously this is the part that's very hard to talk about.
Harvey Weinstein was known to be a bully.
He thought of himself as the sheriff in town.
He scared people in the same way a gangster would.
Things got very uncomfortable very fast.
He no longer seemed to want to talk about work.
I said, no, I don't do that.
And he goes, you're making a very big mistake.
When you read about rape, you read, she kicks and screams.
I just froze.
I said no, and I pushed him away more than once.
L'intouchable Harvey Weinstein. Alors, intouchable, c'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi pour le titre. Damien,
oui.
Tu nous as rejoint.
Oui, rebonsoir, du coup.
Raël, par contre, n'est pas resté pour Weinstein. Je peux la comprendre. Moi-même, j'aurais fui, j'aurais quitté la chambre également. Et nous avons également un ami qui nous a rejoint, Claude. Claude, comment ça va?
Bah, ça va très bien, et toi? Salut.
Ça va.
Donc toi, tu bosses dans le milieu, donc tu vas nous donner des noms ce soir?
Évidemment, oui, bien sûr, j'en ai plein à balancer.
L'intouchable Harvey Weinstein, réalisé par Ursula McFarlane. Un documentaire, donc justement, sur le producteur sulfureux, poursuivi actuellement pour harcèlement sexuel, agression sexuelle, même viol. Cette affaire qui a été à l'origine du hashtag MeToo. On va pas s'amuser à tout refaire, même si c'est un peu le déroulé, justement. C'est un documentaire qui va un peu détailler l'ascension de cet homme-là et justement quelle était la situation avant que le couvercle n'explose et que l'affaire en soit révélée au grand public.
Pour moi, il y avait deux axes qui pouvaient m'intéresser sur le documentaire. Parce que l'affaire elle-même, en soi, on la connaît. Peut-être pas tout le monde, mais moi j'ai lu les articles au fur et à mesure qui sortaient, les différentes accusations sur Weinstein et sur d'autres. Et donc, deux documentaires, j'attendais pas qu'on me rappelle l'affaire ou qu'on me dise qu'il a abusé sexuellement de femmes. C'est des trucs que je sais, enfin, ça fait à peu près 2 ans que c'est bien ancré dans la tête de tout le monde. Il y avait 2 trucs qu'il pouvait faire, c'était soit montrer comment Weinstein est devenu Weinstein, de petit gamin du Queens dont tout le monde se foutait à un des plus grands producteurs, et donc ce qui lui a permis de commettre, enfin, le procès n'est pas encore fait, mais toutes les exactions qu'il aurait commises, ou bien montrer comment marchent les structures qui ont permis de le protéger et d'en protéger d'autres pendant des décennies. Et le documentaire ne fait pas ça, c'est... Ça marche un petit peu comme un documentaire sur un gars qui aurait été plus ou moins un connard dans sa vie, mais avec du succès, et à la fin, ah ben, ah le con, en plus, ah merde, il violait des gens. Alors oui, il y a des témoignages de victimes qui sont parfois assez poignants, mais... C'est pas quelque chose qui apprend, c'est un documentaire, mais il ne me documente pas, il me fait juste ressentir. Et ça, c'est peut-être son gros défaut.
Beaucoup de témoignages, oui, alors on est beaucoup sur la pression, sur son influence, sur la manière, les témoignages sur beaucoup, comment est-ce qu'il profite de son pouvoir, ou de, enfin, justement, il se permet de faire des choses parce qu'il est le shérif de la ville. À un moment, il agresse quelqu'un, il tabasse même des journalistes dans une soirée publique devant tout le monde. Donc en disant « je suis le shérif de la ville », il est pris en photo et l'affaire ne sort pas parce que justement, c'est un mec très très influent. Et c'est vrai que oui, c'est une des marques du pouvoir, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a de l'influence, mais on ne sait pas comment, c'est ça. On ne sait pas sur qui il a fait pression.
Pour moi, ce qui manquait, c'est qu'il aurait fallu, je pense, parce qu'on voit pas mal de femmes qui réagissent en disant « j'ai rien pu faire, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de lutter quand il s'est forcé ». Et il aurait fallu, en fait, je pense, qu'il y ait soit un sociologue ou un psychologue qui explique comment marche la réaction au danger chez l'être humain et que se figer une des trois réactions de base et qu'on ne choisit pas si on se fige ou si on lutte ou si on fuit. Et ça, il n'y a pas. Du coup, c'est encore que de l'émotion. On ne comprend pas ce qu'on... En fait, on ressent ce que... On peut ressentir un peu ce qu'ont vécu ces femmes, un indice de ce qu'elles ont pu vivre, mais on ne comprend pas, par des spécialistes, comment ça a pu se passer pour elles, comment se passait leur entourage. Il y en a une qui dit « ça détruit vos relations et les gens ne savent même pas pourquoi parce que vous n'avez pas pu leur dire ». Ça aurait été intéressant de creuser aussi là-dedans.
Après, on peut se douter qu'elles sont traumatisées. Il y a aussi une clause de confidentialité aussi. Parce que quand il y a eu les premières qui ont dénoncé, les premières à se barrer, les premières à démissionner, qui a menacé de porter plainte, il y a eu un accord de confidentialité qui est très très strict. C'est-à-dire que même leur médecin, elles ne peuvent pas leur dire. Enfin, elles peuvent leur dire au médecin, mais si jamais le médecin rompt le secret médical, eh bien, c'est elles qui sont tenues pour responsables.
Ça, c'est une réponse à tous ceux qui pourraient te ressortir un argument. Elles ont quand même accepté l'argent, tu vois. Bande de connards misogynes, allez vous faire foutre. C'est dit, il faut le dire. Moi, c'est vrai que j'étais vachement dans le ressenti, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et c'est vrai qu'en effet, on n'explique pas ce genre de choses. Moi, après, c'était une affaire pareille que je connaissais, comme tout le monde, je pense ici, de toute manière. Peut-être qu'on ne connaissait pas tous les détails, mais on savait son mode opératoire. Donc, au final, avoir 4 témoignages qui disent à peu près la même chose, même si c'est important, hein, qu'il faut pas les nier et que c'est important de voir ces femmes en parler.
Non, oui, il faut montrer que c'est pas des cas isolés, que ce sont des histoires qui se ressemblent aussi.
Voilà, déjà d'une part, mais en fait, c'est vrai que moi, quand je suis sorti de là, je me disais, ce film peut être intéressant pour une catégorie de personnes qui est ceux qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux parler, qui peuvent toujours dire mais pourquoi elle a pas gueulé, et en même temps elle y allait, en même temps elle a accepté, toujours cette espèce de gens qui ne comprennent pas comment ça se passe, et on en fait partie au final, même nous, même si là on est plus éclairé sur le sujet, qu'on a envie d'en parler, on sait pas ce que ça fait. Et c'est vrai que c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, pour nous qui connaissons ce genre de truc et qui sommes le public cible, qui allons aller voir ça en connaissant l'histoire, est-ce que ça nous a éduqué sur quelque chose? Non. Ça nous a pas forcément montré du coup quels sont les ressentis, ça nous a pas montré les affres du pouvoir. Donc en effet, oui, voilà, moi je suis sorti de là en me posant la question, et oui, en effet, non, ça n'en parle pas. Donc, et la personne qui pourrait avoir des pensées hyper nauséabondes, mais qui a besoin d'être éduquée avant tout, n'ira pas le voir. Parce qu'elle a sa pensée trop ancrée.
Et là où ça changera pas la mentalité non plus, c'est que les filles qui ont été agressées sont des filles qui voulaient bosser à Hollywood. C'est-à-dire que le cliché de la fille qui va à Hollywood et qui justement se fait harceler par le producteur, on en parle d'ailleurs dans le film, c'est un vieux cliché. Là, c'est un cas exceptionnel. Donc, il y a eu tellement d'accumulation que le bouchon a explosé et ça finit par déborder en foutre partout. Mais on reste quand même dans ce vieux cliché connu.
On est même dans le vieux cliché connu de, à partir du moment où, enfin, on voit une des actrices à un moment qui parle du fait que, elle s'est tue pendant très longtemps. Elle a vu l'affaire qui a commencé à éclater, donc là, elle s'est mise à parler. D'ailleurs, elle est là dans le documentaire. Ça répond aussi à tous ceux qui disent, tiens, l'opportuniste qui se ramène. Tiens, bizarrement, il y en a plein. C'est normal. Au bout d'un moment, la parole se libère. Le mouvement MeToo sera pas forcément légitime partout, mais ça a apporté ça. C'est intéressant de montrer comment ça a évolué.
Non, mais c'était le cas aussi de Spotlight et Grâce à Dieu, où là il n'y avait pas d'histoire de showbiz ou quoi que ce soit, et les victimes se sont révélées une fois que c'est devenu public.
Moi du coup je vais dire à peu près les mêmes choses que Karl et Thierry. C'est que, pareil, je connaissais l'histoire. C'est un documentaire qui, je pense, son parti pris, c'était vraiment de montrer l'émotion, de montrer les témoignages des femmes. Et c'est important, effectivement, il faut le dire, il faut voir, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'empathie, et c'est vrai qu'on en ressort, on se sent pas bien, c'est ce qui est tout à fait normal. Après, c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus, comme disait Karl, sur le parcours de Weinstein. On l'entrevoit à un moment, on disait que c'était un gosse qui était ultra complexé, grosso modo un incel à qui on aurait donné du pouvoir. Et en gros, ouais, j'aurais aimé justement qu'on creuse un peu davantage là-dessus, qu'il y ait plus de témoignages qui disent justement quelle est sa trajectoire personnelle, et surtout donc comment il a fait pour créer ensuite autour de lui un système, comment le système aussi s'est nourri un petit peu de ce que lui il a fait pour pouvoir se protéger. Et avoir un boulot un peu sur ces structures sans perdre l'émotion, je pense que ça aurait été un très bon documentaire. Après, c'est un bon documentaire, voilà, c'est qu'on en sort mal. Un petit peu, comme je disais, on en sort vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait une petite partie aussi explicative avec peut-être des spécialistes, peut-être des sociologues, des gens qui auraient travaillé un petit peu sur la sociologie d'Hollywood, ça doit exister. Des psychologues, des neuroscientifiques aussi. Ce que disait Carl, comment ça se manifeste dans le cerveau quand les femmes, par exemple, ont affaire à ce type de situation. Ça, j'aurais aimé apprendre ça, j'aurais aimé connaître ça et j'aurais aimé qu'on puisse un petit peu être un peu plus éclairé par rapport à ça. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est un bon documentaire. Voilà.
Alors, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais le truc, c'est que je pense qu'ils ont pris le parti pris d'aller dans l'émotionnel parce qu'on est encore dans une phase de transition, c'est-à-dire que ça vient à peine d'émerger. C'est balbutiant. On ne sait pas encore trop comment gérer tout ça à l'échelle américaine, à l'échelle mondiale, etc. Oui,
d'ailleurs, l'affaire a éclaté en 2017. Voilà. Et le doc sort en 2019. Ça a été, les producteurs se sont jetés sur le truc dès qu'il y a eu le scandale et ils ont lancé quelque chose, quoi.
C'est ça. Et il n'y a pas encore assez de recul, je pense, pour avoir un documentaire. Je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront dans les années suivantes. Mais là, pour l'instant, je pense qu'ils ont pris ce parti pris pour plonger les gens directement pour leur dire voilà. La meilleure manière d'attirer les gens, c'est par les sentiments, c'est pas par la logique, c'est pas par la réflexion. Le moyen le plus simple d'accéder aux gens, c'est par ce biais-là. Du coup, je pense que c'est pas une erreur ou une faute. Et je pense qu'il y aura, d'autres documentaires, mais du coup, enfin, j'ai pas envie de me répéter parce que vous avez plus ou moins bien résumé le truc, quoi.
Parce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça surfe un peu sur la vague MeToo Einstein tant que c'est encore un peu chaud, quoi.
Oui.
Ça surfe complètement sur la vague, mais en même temps, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Je veux dire, c'est pas dans 20 ans, donc ouais. C'est très bien qu'il y ait un documentaire comme ça qui sorte, justement pour rappeler, enfin, on va dire, bien nous refoutre dans la gueule tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on s'est tapé il y a 2 ans, mais je veux dire, c'est très important. Moi, je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites sur le docu, mais en même temps, je suis assez partagé parce que justement comme ce que disait Thierry quoi, c'est, enfin voilà ce que je t'ai dit en sortant du film, c'est que les personnes en fait qui mériteraient vraiment de regarder ce documentaire pourquoi et tout, c'est pas ceux qui iront le voir. Nous, je veux dire, à aucun moment on a envie de contredire ce qui se dit dans ce documentaire parce que c'est des choses qu'on pense mais avant même l'affaire Weinstein en fait. Donc nous, à proprement parler, qu'on regarde ce documentaire ou pas, ça changera rien pour nous. Par contre, les gens qui eux justement peuvent avoir une espèce d'approche beaucoup plus misogyne comme tu disais, beaucoup plus juste une idéologie absolument dégueulasse, c'est pas ceux qui iront mater le intouchable quoi, tu vois, enfin je veux dire, c'est pas l'intouchable Weinstein, je veux dire, tu vois, c'est pas quoi, donc voilà,
c'est pas le même film.
Non mais attends mec, en plus c'est horrible au début quand j'ai, parce que le titre original du film c'est juste Untouchable quoi, ouais. Direct j'ai imaginé Harvey Weinstein en fauteuil roulant et tout, je me suis tapé un fou rire au début quoi. Mais là où je suis un peu déçu, donc il y a ça qui m'a un petit peu déçu malgré tout. Et l'autre truc en fait qui m'a un peu déçu, je suis pas complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on sait pas en fait au début comment il a fait pour camoufler, parce que une des questions qu'on s'est tous posées, je pense, de toute façon quand l'affaire Weinstein elle a pété, on s'est tous dit putain comment ça se fait que le truc ça date d'il y a 20 ans, et genre comment ça se fait que ça a mis 20 ans à vraiment exploser en fait quoi cette histoire. Et bah ça, on a notre réponse en fait. Au début, il réussissait justement à faire pression avec des clauses de confidentialité, avec des arrangements à l'amiable. Cette réponse à cette question, on l'a. Elle est posée d'ailleurs dès le début du documentaire.
C'est pas ça que je veux dire. Enfin, ça fait partie de ça, mais la structure, c'est aussi qu'est-ce qui permet que tout le monde se dit. Un des premiers témoignages que j'avais lu après le lancement de l'affaire Weinstein, c'est je ne sais plus quelle actrice était dans sa chambre d'hôtel. Weinstein rentre, se masturbe devant elle, se rhabille et va à la salle de réception parce qu'il y avait un dîner de gala juste en bas de l'hôtel. Elle s'assoit à la table et dit « Mais vous vous rendez pas compte ? Weinstein vient de rentrer dans ma chambre, de se branler un coup et de repartir. » Et tout le monde lui a fait « Oh, c'est Hervé, c'est normal. Oui. » Et comment, enfin moi ce que j'aurais bien voulu voir, c'est comment t'arrives à un système où c'est normal.
Non mais voilà, c'est le point où je voulais en venir justement après en plus.
Littéralement à la table.
Ouais. Non mais c'est ça. Cette réponse là, moi finalement je l'ai eu. Par contre là justement là où j'étais vachement déçu, c'est ce qu'on disait d'ailleurs pareil en sortant, c'est pourquoi en fait ils ont pas abordé toutes les personnes qui étaient au courant depuis le début et qui n'ont jamais rien dit. Alors, en fait.
Là, alors de ce que j'ai lu sur le film, ils ont une liste de 600 personnes. Ils en ont contacté 400. Sur les 400, il y en a 128 qui ont accepté de parler, d'accord, qui ont consenti à parler. Et au final, ils en ont interviewé 29.
Bah, c'est dommage de ne pas avoir interviewé les 120 personnes, en fait, j'ai envie de te dire. Tu vois, finalement, il y avait peut-être d'autres choses à raconter, quoi, au final. Quand tu regardes ce documentaire, ça s'arrête vraiment uniquement à l'affaire Weinstein. Après, il te parle un peu de MeToo à la fin, ça parle quand même du mouvement que ça a lancé. Voilà, en épilogue. Par contre, il parle pas aussi de toutes les autres stars qui se sont fait choper, justement, qui se sont tous fait balancer après ça, justement, où la parole a été libérée. Donc, il y a eu qui d'autre qui a été balancé.
On voit la photo de Kevin Spacey dans le documentaire.
Ouais, c'est vrai, ouais, ça c'est drôle ça. Ouais, Harvey Weinstein et Kevin Spacey ensemble sur une photo, ça fait space quand même quand tu vois ça, quoi, maintenant.
Ça aurait été intéressant de partir de Weinstein pour dénoncer
tous les pans du système. De parler de toutes les grosses compagnies qui se permettent ça, que ce soit dans l'industrie cinématographique ou partout ailleurs.
Plus le même doc là.
Non mais bien sûr, mais pas forcément pour parler de ça en problème de fond, en montrant qu'il y a des similitudes en fait, et en montrant que c'est pas un cas isolé, que lui n'est pas un cas isolé. Là on est en train de te dire, regarde, il y a cette affaire là, et oui, on est en train de la conclure. Alors on parle de MeToo à la fin, on dit oui, des gens qui ont du pouvoir peuvent se le permettre, sauf que c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus récurrent que ce que ça laisse entendre, et c'est dommage.
Ils le disent, mais vite fait.
Ils laissent entendre que c'est les patrons qui font ça, mais c'est pas que les patrons, c'est ça le problème aussi, quoi. Je veux dire, t'as des acteurs qui se sont fait choper et tout, Dustin Hoffman, bon, à ce que je sache, c'est pas un patron de studio, quoi, tu vois, donc c'est ça qui est un petit peu dommage sur la fin, quoi. Et alors, ouais, le dernier truc, et ça que j'avais vite fait dire à Carl, qui m'a un peu gêné, même si, bon, clairement, c'est pas l'ambition du film, mais ça donne l'impression par moment qu'en fait, c'est une guerre des sexes. Et c'est pas le truc, c'est que c'est pas à proprement parler une histoire de guerre des sexes en fait, l'affaire Weinstein.
Kevin Spacey.
Ouais, voilà, il y a Kevin Spacey. Et puis non mais même surtout, je veux dire, attends, une des personnes qui s'était fait balancer dans l'histoire, il y avait Maria Carey qui s'était fait balancer aussi pour harcèlement sur son garde du corps, tu vois.
Il y a la fille, donc Argento aussi.
Ouais, Asia Argento aussi s'est fait gueuler. Donc genre, ça montre que le problème c'est pas une question de sexe ou quoi que ce soit. C'est juste bannir un comportement qui est absolument lamentable, c'est tout.
Le manque d'empathie, parce qu'on sent vraiment que les femmes sont complètement déshumanisées là-dedans. Même quand on est un prédateur, c'est de femme, homme, ou vraiment c'est de avoir ce rapport de pouvoir. Et c'est ça surtout qui m'aura un petit peu manqué. Mais au niveau de l'émotion, moi je rejoins ce que disait Yassa, c'est que l'histoire est encore toute fraîche, que c'est le moyen le plus sûr d'attirer les gens, c'est par l'émotion. Et que c'est vrai que c'est dommage que ça s'adresse peut-être à un public qui connaît déjà l'histoire et donc qui est déjà au courant de ça. Ça aurait peut-être mérité de... peut-être un documentaire qu'on puisse voir à la télévision, par exemple. Ça, pour le coup, ça aurait pu toucher davantage de personnes.
Je pense que, en fait, ce film, en conclusion, ce sera un document d'archives très intéressant. Quand les gens se demanderont quel était le scandale Weinstein, ils vont regarder le film qui, en plus, est sorti au moment où c'est arrivé. Et qui, ouais, ça servira de tranche de moment qu'on pourra regarder si on se pose des questions là-dessus et si on a envie de se documenter là-dessus. Mais oui, il ne faut pas le prendre dans un but éducatif, quoi.
Bon, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que pour aller voir les documentaires sur Lourdes ou sur Thomas Pesquet, il n'y a personne. Et dès qu'il y a une affaire de cul, tout le monde réplique. Bon.
Écoute, Pesquet, je pouvais pas, et Lourdes, j'avais pas du tout envie.
Puis on va pas se mentir, Thomas Pesquet, il est très héroïque, mais il est extrêmement chiant.
Il est trop parfait, il est trop voilà. Parfait, il est énorme.
Bande de jaloux, va.
Pourquoi vous aviez toutes vos affaires dans votre voiture ?
Sur migration.
La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue.
Vous ne croyez pas ?
Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région.
Pardon ?
Mon pantalon !
Yo ! Bonsoir.
Vous cuisinez ? C'est quoi ?
Vous vivez seul dans cette grande baraque ?
Thérèse, ma mère, mon frère Juju et Marion, sa fille.
Salut.
Il est temps de faire baisser un peu la pression, parce que là on est tous à fleur de peau. On va parler d'un film, j'espère un peu plus léger, puisque je ne l'ai pas vu. Thomas, lundi tu es allé à une avant-première, tu es allé voir Perdri de Erwan Leduc, film français. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Alors bon, comment dire ? Alors tu sais, avec Swan Harlow, c'est avec Maude Wheeler, voilà. Que dire de Perdri, c'est un film qui m'a fait apprécier au poste de Dupieux.
Alors, je rappelle pour le coup que Dupieux, on en avait déjà parlé quand on est allé voir Le Dain, que tu avais d'ailleurs bien apprécié, et que toi, tu disais justement que tu aimais bien les gimmicks de Dupieux, mais pas au poste, si je me rappelle bien.
C'est ça, c'est une comédie avec un poil d'absurde, mais pas des masses non plus, qui veut écrire sur l'amour et comment dire. Tu prends les deux derniers Dupieux, tu prends Au Poste et Le Dain. Tu prends le côté bizarre, absurde, que tu divises par 10 hein, facilement, et tu remplaces par des dialogues surécrits. Alors, c'est avec Fanny Ardant aussi, et le film commence sur Fanny Ardant qui te parle de l'amour. Quand ça commence là-dessus, tu sens que l'heure 39 de film va être longue. Elle va être très longue. C'est Erwan Leduc qui avait fait aussi le scénario, donc qui a écrit aussi le film. Et en fait, j'ai l'impression que ce mec-là, il faudrait qu'il écrive des personnages. Il est très content de ce qu'il a écrit. Et évidemment, il a beaucoup de travail sur les personnages, mais trop. Et à tel point, il n'arrive pas à le montrer. Donc, il parle énormément, il dit de grandes phrases. Les persos sont tellement surécrits
que le personnage de Swan Harlow, donc lui, les gendarmes, ils sont dans un bled paumé. C'est dans les Vosges, on est dans un bled paumé. Tu veux, le personnage est tellement écrit, est tellement pointu, est tellement précis, est tellement profond qu'en fait, pour décrire le personnage, on va pas le filmer, on va faire une séance de psy collective dans la gendarmerie et on va parler du personnage. Et vous êtes un mec bien, capitaine, voilà. Ce film-là est une vision fantasmée de la province par un hipster parisien. On est sur un village des Vosges paumé, on est filtre Instagram, on est tout le monde s'habille au fripe, hein, évidemment. On n'écoute que de la musique qui a bien 20 ans facile, voire 30. Mais pourtant, on est bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui gueule contre Instagram et Facebook, ou il y a un mec qui fume de la clope électronique, il n'y a pas de souci, quoi. L'héroïne est... Alors, j'allais dire une connasse, parce que c'est le premier mot qui me vient. Non, en fait, elle est juste insupportable. Elle est au-delà de la connasse de Camille Cotin. En fait, on va au-delà de la fille insupportable, à tel point que c'est le jour où elle va demander à ses parents de se faire émanciper par provocation, les parents vont signer avant qu'elle finisse sa phrase. C'est pas super bien amené, c'est pas très drôle, ça se veut jouer comédie, c'est pas très drôle. On est dans une famille qui est déstructurée, parce qu'on est chez Swan Harlow, en fait. Le personnage, l'héroïne qui est casse-pied, en fait, va débarquer dans la vie de Swan Harlow quand elle se fait piquer sa bagnole par un nudiste. Elle débarque chez les gendarmes qui, bon, comme ils sont un peu chiés, ils vont laisser traîner l'enquête, parce que bon, ils sont clampins, ils préfèrent jouer aux jeux vidéo sur leur ordi. Et du coup, bon, elle a nulle part où aller, donc... elle va débarquer chez Swan Harlow, donc dans sa famille, avec Fanny Ardant, la mère, qui fait des émissions de radio dans le garage, et Nicolas Morige, qui a un problème avec sa fille, qui veut se barrer aussi, mais qui lui est enfermé dans son étude des vers de terre. Ah, c'est très drôle, voilà, il est paumé, personne ne veut sa vie, et voilà. Et en fait, on a plusieurs histoires, on a plusieurs embranchements, mais qui ne se rejoignent en fait pas, quoi. En fait, ils ont le même décor, ils ont la même maison, mais ils n'ont aucune influence les uns avec les autres.
Des personnages intéressants mais malheureusement surécrits. Un film qui visiblement essaie d'avoir trop d'ambition pour ce qu'il propose. Un premier un peu raté du coup. Est-ce que c'est un réalisateur que tu as envie de suivre malgré tout si jamais il proposait autre chose, Erwan Leduc?
Non, c'était pas du cinoche, quoi. C'était il nous mettait en image ce qu'il avait écrit. Il y a un truc sympa, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste, c'était comme ça, c'est posé comme ça. À un moment, il y a une reconstitution de bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est le prétexte. Ils se retrouvent au milieu de la reconstitution de la bataille. Donc les mecs, ils ont tous des vrais chars, des vrais mortiers, des vrais fusils. Mais comme ils sont démilitarisés, en fait, ils mettent l'obus dans le mortier et il se passe rien. Donc ils se bouchent les oreilles, ils font comme si, mais en fait, il se passe rien. Et donc il y a une bataille en silence et les mecs, ils font semblant de se battre. C'est le passage drôle du film, c'est le bon passage du film, c'est le moment à garder, quoi. Après, au-delà...
Un seul passage sympathique dans le film, un avis assez catégorique dans le négatif. Perdri n'est pas quelque chose que Thomas conseille. De ce que tu m'en dis, je n'aurais sûrement pas apprécié non plus. Il paraît que pour se consoler, on va partir vers la petite enfance.
C'est ça, là on était dans le sens de décompression et là on finit l'épisode de manière beaucoup, beaucoup plus légère.
J'ai bien hâte d'écouter ça.
Hey, salut Dora!
Bonjour les enfants! Aujourd'hui avec Octave, nous allons au cinéma. We go to the movie! Oh non, regardez! Look, children! C'est Karl le renard! Il va encore râler sur le film! Répétez après moi les enfants! Karl, arrête de râler!
Karl, arrête de râler!
Karl, arrête de râler!
Karl, arrête de râler!
Very good!
Toi, hein. Ouais.
Dora, it's time for dinner.
If you think you know Dora,
delicioso. Can you say delicioso?
She'll grow out of it.
Think again. Dora, this isn't the jungle. It's high school. It's life or death.
So if I don't talk to you, don't take it personal, okay? We're all just trying to survive. High school's a horrible nightmare.
Excuse me? I'm kind of stuck.
Who are you?
I'm glad you brought it up.
I'm just kidding. I don't actually care. We're on to something big, Dora.
An ancient city made of gold.
We're gonna break some rules.
We're coming with you, prima.
Oh, look.
Dora brought a knife on the field trip, everybody.
Dora l'exploratrice. Dora
l'exploratrice. Aïe, 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 aïe. Je suis de bonne humeur en sortant de ce film, c'est incroyable. Je ne partais pas gagnant. Je suis avec Yassa.
Salut.
On n'est que deux à aller voir ce film et... C'est juste une question de calendrier parce que les autres étaient chauds. C'est juste qu'ils n'étaient pas dispo. Ils iront le voir ce week-end. Alors, Dora l'exploratrice, ouais, de James Bobbin. Un peu un yes man. Hein. Tout ce qu'il a réalisé, c'est des films pets. Alice de l'autre côté du miroir aussi. Il était pressenti pour faire le crossover improbable entre Men in Black et 21 Jump Street, pour vous dire un peu. Et je crois qu'il est sur un projet Action Man. Enfin, c'est bon. Voilà. Un casting, alors on a qui en Dora? On a Isabella Moner, Michael Peña qui fait son père, Eva Longoria qui fait la maman de Dora, et on a évidemment les deux personnages les plus importants, Babouche et Shipper, avec Babouche doublé en VO par Danny Trejo et Shipper en VO doublé par Benicio Del Toro. Alors, on n'en profitera pas parce que nous, on a vu la VF. Je ne sais même pas si la VO est disponible quelque part en France. Je ne sais même pas s'il y aurait un public intéressé pour ça parce qu'il faut être clair, ça s'adresse vraiment aux très petits.
Ouais, très très petits. Mais j'ai envie de dire qu'on a peut-être retrouvé notre âme d'enfant en allant voir ce film.
J'irai pas jusque-là.
Moi, ça m'a fait un petit... Moi, franchement, je m'attendais tellement à une bouse monumentale que je me suis presque pris une claque parce que j'ai pas vu le temps passer. Je me suis amusée franchement du début à la fin. C'est la scène d'intro par exemple est excellentissime.
Alors la scène d'intro, on a Dora et Diego, c'est ça son cousin, c'est Diego. Ils ont 4-5 ans, 6 ans, ils sont sur un petit 4x4 et tout, ils sont à travers la jungle, il y a des animaux partout, il y a Babouche qui saute à côté, il y a Shipper le renard, Shipper a deux shippés, tout ça. Donc c'est un épisode dedans, on se dit, mais en fait, pourquoi dans la bande-annonce ils nous montrent des ados? C'est ça qu'on veut voir en fait, c'est les persos. Bon, on se doute bien que c'est le genre de truc qui pourrait très vite tourner en rond. Hein. Mais voilà, on a du Dora, on voit que c'est très joli, et puis hop, en fait, maman rappelle, on va manger, on arrête, on enlève les images de synthèse, ils sont sur une Jeep en carton en fait. Diego, son léopard, c'est une peluche. Et par contre, Babouche est un vrai singe en image de synthèse. Alors ça fait partie des problèmes de CGI avec les animaux. On a des animaux de la nature partout. Donc des animaux naturels à chaque fois. Hein. Parfois, on peut...
retravailler quand même, parce qu'il y a par exemple y a un moment où Dora se fait poursuivre par des éléphants ou je sais plus quoi.
Des éléphants pygmées, oui.
Ouais.
Voilà, donc ce sont des éléphants, mais ils sont réalistes. Alors que... On a justement Babouche et Shipper le renard qui sont en CGI. Babouche, il fait un peu peur d'ailleurs. Hein. Alors, en condition, je suis désolé, il est un peu moche. Shipper, par contre, il est plus joli que dans le dessin animé.
Shipper a un meilleur poil que Babouche.
Ouais, ça doit être ça.
C'est ça, c'est les poils, je pense. Hein, c'est...
Et tout le monde trouve ça normal.
Oui, et il y a une certaine incohérence qui se déroule durant tout le film parce que, enfin, je suis peut-être trop vieille pour capter le truc, mais Shipper parle. D'accord, quand on le voit avec les mercenaires, etc., les chasseurs de trésors, ils parlent, tout le monde trouve ça normal. Alors que Babouche, à un moment donné, se met à parler et c'est « Oh mon Dieu, tu parles ?» Voilà. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre en fait la logique, la dynamique qui fait que voilà, que Babouche parle et c'est exceptionnel et Shipper parle et c'est tout à fait normal. Je suis pas, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé. Mais...
C'est ça. On a des problèmes de CGI, on a quelques incohérences dans le scénario aussi. C'est un scénario qui est très naïf.
Très téléphoné.
Ouais, très téléphoné aussi. Si vous avez vu un film d'aventure, vous avez vu le film. Hein, y a pas de souci. Du coup, ouais, on se pose un peu la question, pourquoi est-ce qu'ils ont pris des ados? Parce que si c'est pour prendre un public d'ados, je suis désolé, mais il ne va pas s'intéresser à Dora l'exploratrice. Et les petits auraient pu faire l'affaire, hein, limite, pour ce genre de truc. Dora, alors, le perso de Dora est très intéressant, parce que le perso de Dora est taré. Elle devrait explorer l'HP, je pense, Dora. Elle parle aux animaux, elle voit des trucs que les autres ne voient pas, elle chante tout le temps, elle est toujours jouée.
Même sa grand-mère le reconnaît.
Ouais, non, mais il y a un souci, Dora, voilà, bon. Ah oui, alors oui, ses parents sont des salauds aussi, oui, parce que, bon, en gros, c'est une exploratrice, son rêve, c'est l'exploration, donc elle vit dans la jungle avec ses parents. Et au moment où il découvre une cité perdue, ses parents lui disent, ouais, alors, on va y aller, mais toi, tu vas retrouver ton cousin en ville, et donc, Et genre, on va pas attendre que t'explorer la cité. On va t'envoyer directement en punition en ville.
Et quelle ville il envoie à LA quand même?
La pire des jungles, évidemment. Bon, heureusement, des méchants vont la retrouver, vont la kidnapper pour retrouver la trace de la cité perdue. Mmh. Ils vont se planter, ils vont prendre aussi les amis avec, parce qu'il faut des amis aussi.
Hein, oui.
Des personnages fonctionnent, ça sert toujours à quelque chose.
Mais par exemple, tu vois, à un moment donné, on savait qu'il y aurait un love interest. Ce que je trouve pas mal, c'est que ça implique pas Dora, en fait.
C'est pas passé loin.
Ouais.
C'était pas une si grosse catastrophe que ça, non. Finalement. Bon, c'est pas foufou non plus, hein. Faut pas mettre la barre très très haut, hein. Attention.
Non, moi, franchement, je rigole, je suis bien, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de terrible, tu vois. Et finalement, j'ai pris du bon temps. Du coup, ça remonte, en fait, ça me booste, là.
Ouais, mais après, c'est le côté fast-food, c'est-à-dire que c'est assez moyen,
oui,
et
oui,
que c'est,
oui.
Voilà.
Non, mais ça aurait été un film sur Disney Channel, ça aurait été pareil, quoi.
C'est ça, c'est calibré Disney Channel, ouais. Quoi.
La chanson à la fin aussi, enfin voilà, quoi. Enfin, les chansons même durant tout le film.
Oui, c'est ça. Ben oui, c'est très calibré Dora, quoi. Ouais. C'est là que tu t'aperçois que Dora, sortie d'un dessin animé éducatif, c'est compliqué, quoi.
Et à la place de nous apprendre des mots en anglais, on apprend des mots en espagnol.
Parce qu'à l'origine... Oui. Dora, elle est latina, oui. Et donc elle, c'est des mots dans la langue originale, elle apprend des mots en espagnol.
Non, mais je te parle de l'évolution du dessin animé en VF, tu vois, il y a de l'anglais qui s'est mis en place, etc. Bah,
après, c'est assez réaliste parce que quand même, ça se passe en Amérique du Sud. Elle oui. commence en Amérique du Sud, ouais, donc c'est.
Les parents sont latinos, donc ouais, c'est normal.
Dora, ouais, ben le gros avantage de Dora, c'est que c'est un film qui a conscience que c'est un sujet casse-gueule, quoi. Voilà, donc il joue un peu avec ça, même si ça marche pas toujours à 100%.
On a même une blague de je me colle la tête et ça fait rire les gosses, parce que les gosses ont rigolé, j'ai un petit peu rigolé aussi.
Mais moi j'ai ri, mais parce que c'était tellement la loose, c'était tellement ridicule, oui. Je me suis dit, c'est premier degré ou c'est voulu, en fait, c'est la difficulté, oui. Comme ça. Mais...
Même une blague de prout, à un moment donné aussi. Donc celle-là j'ai pas entendu beaucoup de rire, je pense que ça a pas...
Ouais, il y a un moment, il y a un seul mouvement qui fait des proutes, oui, voilà.
Oui, voilà, mais je pense que la salle n'était pas assez réceptive à ça, je pense que, ouais, c'était pas bien amené. Après, franchement, ça reste quand même l'archétype, ça reste l'archétype d'un film, j'ai envie de dire Disney, quoi, presque.
Bon, pour Dora, on peut dire...
C'est gagné. Je tiens juste à préciser que Thomas chantonnait en sortant de la salle.
Dora l'exploratrice.
C'est la fin de cette longue semaine. Ça y est, c'est la rentrée là. Les films commencent à revenir. Il y avait un jour férié, donc tout le monde en profite pour sortir son film. Donc une belle fournée. Heureusement qu'on avait du renfort pour cette semaine, n'est-ce pas Thierry?
Ah mais ça, je te le fais pas dire. Mais surtout que cette semaine, vraiment, je trouve que dans les choix qui ont été faits, et on avait envie de les voir, et c'est ça qui était intéressant. Il n'y a pas de film qu'on a choisi, comme la semaine dernière par exemple avec la mamie, qu'on a choisi vraiment par dépit, histoire de combler un petit peu d'écoute. Voilà, il y a eu de l'émotion, beaucoup d'émotion, quoi qu'il arrive, dans tous les films, et qu'elles soient positives ou négatives, c'était intéressant.
Merci à tous de nous avoir suivis, merci Damien de Autour du Feu, ton podcast. Ouais. Comment t'as trouvé cette semaine?
Excellente. Voilà, j'ai beaucoup apprécié regarder les films avec vous, les débriefer avec vous, et ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cinéma, donc c'était un peu comme un coup de pied au cul, quoi.
Ah ben là, c'est le cas de le dire, là.
Du coup, lequel d'entre nous doit partir, là?
Bah du coup, je pense que ça va se faire sur une épreuve éliminatoire, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas pour qui je vais voter.
Ah. Alors, je sais pas.
Bon, hein, t'as vu, on prend des bons invités.
On prend d'excellents invités. Allez, c'est la fin, c'est la promo. Parle-nous un peu de ton podcast Autour du Feu.
Voilà. Alors, Autour du Feu, ça a été créé au mois de mars dernier parce que donc la communauté des fans de Koh-Lanta est une grande fan aussi de Survivor, la version américaine. Et la culture fan de Survivor aux États-Unis est extrêmement foisonnante. Et nous, en fait, on a repris ça, on se dit que ça manquait en France. Que l'émission n'est pas juste un simple show de télé-réalité, mais qui veut dire énormément sur les gens en conditions extrêmes, sur les relations sociales, sur parfois les inégalités aussi, sur les systèmes un petit peu qui font que des gens arrivent à aller loin, voire non. Et en fait, on a regroupé plusieurs communautés qui se sont un peu regroupées malgré elles. Donc il y a le forum Big, qui est créé depuis 12 ans par Felouz, que je salue, qui pour le coup, c'est vraiment une bible de Koh-Lanta. Il y a Survivor ST, qui est la même chose, mais pour Survivor. Ensuite, il y a aussi ce que Sgorg, qui est une ORG. Donc les ORG, c'est des Koh-Lanta en ligne. On reproduit la mécanique de jeu de Koh-Lanta sur Discord ou sur Facebook, sur Wiki. J'ai déjà eu la chance d'y participer. C'est extrêmement prenant. On apprend énormément sur soi-même. Et c'est toutes ces communautés qui sont un petit peu regroupées derrière nous pour créer Autour du Feu. À chaque épisode, toutes les semaines, on se réunit à plusieurs. Ça change à chaque fois. Et on débriefe les épisodes.
Ça passe tous les combien ton émission ?
Là, en fait, on va reprendre à la prochaine saison qui devrait avoir lieu, on pense, mi-octobre. Mais là, j'ai des hors-séries qui sont en préparation sur la manière dont le concept est né, a un petit peu essaimé dans le monde, comment il est arrivé aux États-Unis avant qu'il n'arrive en France.
C'est sur les réseaux sociaux, un tweet, un machin, Instagram ?
Alors, Twitter, c'est ADF Podcast avec un S. Et sur Instagram, c'est Autour du Feu, tout simplement.
Merci, Karl, d'être venu.
Merci, Thomas.
Merci Claude pour ce passage express.
Merci à toi.
Merci Hera.
Merci Thomas.
Merci Yassa.
Merci Thomas.
Vous êtes avec moi à Dora.
C'est gagné.
C'est gagné. Et merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci. Merci et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était certain les machos. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres films. Encore plus, encore une très très grosse semaine la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clac podcast. Et évidemment, on se retrouve aussi sur toutes les bonnes applications de podcast. iTunes, enfin Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, que sais-je encore. J'en oublie forcément, c'est toujours comme ça. Ça y est, on est référencé par iTunes, on l'a vu. Depuis la semaine dernière, on s'en est aperçu. Et du coup, il y a eu un petit pic d'audience. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux auditeurs qui nous découvrent grâce à ça. Donc, si vous avez aimé l'émission, eh bien, parlez-en. Soit parlez-en autour de vous sur les réseaux, mais aussi une petite étoile, un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça nous aide aussi à faire connaître l'émission à d'autres personnes qui pourront l'aimer également. À la semaine prochaine pour plein d'autres films.
Bisous, bisous, bisous.
Bisous,
bisous.
Bonne séance, les amis.
À tout à l'heure.
Bonne séance.
J'espère que ça sera pas aussi pénible que l'épreuve des poteaux.
C'est long et chiant.
Cela dit, je pensais à un truc, il y a un point commun entre Clac et Koh-Lanta.
Ouais.
C'est que dans Koh-Lanta, il y a une épreuve où ils s'envoient des gros verres gluants dégueulasses.
Ouais.
Et nous, on a une épreuve où on s'envoie des comédies françaises gluantes dégueulasses.
Ah bah c'est la même chose. La même chose, c'est un peu pâteux, un peu sableux, ça colle en bouche, et ça laisse un goût pas très très ragoûtant. Bah voilà, c'est la même chose.